Radio Cité Genève. Genève, c'est vous. Midi à la Boudi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Genève, c'est vous. Et Genève, c'est vous aujourd'hui pour une troisième et dernière fois. Andrea Pereira, vous êtes la directrice de l'association Minds, une association qui veut briser les tabous autour de la santé mentale. C'est ce qu'on a fait dans les deux premiers épisodes et qu'on va continuer à faire aujourd'hui avec vous. On va parler d'une tranche de la population qu'on évoque souvent quand on parle de santé mentale. C'est les jeunes. Et les jeunes, il y a des chiffres qui sont sortis il y a quelques semaines maintenant qui sont plutôt inquiétants parce qu'on nous dit que les jeunes suisses ne vont pas forcément très bien et notamment à cause de la pandémie de Covid qui a fait énormément de mal à la santé mentale des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors la pandémie, elle a vraiment impacté la tranche d'âge des jeunes, ça c'est sûr. Les données suisses sont assez alarmantes. C'est vraiment la tranche d'âge qui a le plus souffert, qui a ressenti le plus de détresse psychologique pendant cette période. Après, les derniers chiffres qu'on a, ils datent de fin 2022. Donc à voir si ça perdure dans le temps ou pas. Pourquoi ? C'est toujours difficile, hein. Il y a plusieurs explications et puis c'est toujours multifactoriel. Je pense qu'une partie de l'explication, c'est que les jeunes se reposent beaucoup sur leur groupe de pairs, les activités quotidiennes, aller aux études, aller dans les différentes écoles qu'ils fréquentent, et que tout d'un coup, tout ça était complètement coupé. Donc il y a eu énormément d'isolement social à une période de la vie où la socialisation, elle est vraiment cruciale, et où cette socialisation, elle repose beaucoup sur les pairs, plutôt que sur d'autres cercles, peut-être professionnels ou familiaux, que les tranches d'âge plus âgées peuvent avoir.
Il y a souvent un paragraphe qui revient à la fin des articles qui parle de cette santé mentale chez les jeunes et du fait que ça aille de moins en moins bien. Il y a un petit paragraphe sur les réseaux sociaux à la fin. Il y a souvent un lien qui est fait entre la santé mentale des jeunes et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que les réseaux sociaux ont tant d'impact que ça sur la santé mentale de nos jeunes ?
Alors, je pense que le fait que les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale des personnes qui les utilisent, ça, c'est indéniable. Après, c'est vraiment un sujet qui fait débat à l'heure actuelle. Est-ce que l'impact, il est positif ou négatif ? Je pense qu'il y a des deux et qu'en fait, ça dépend beaucoup de l'utilisation qu'on en fait. Parce que effectivement, il y a des risques qui sont associés aux réseaux sociaux et notamment chez les jeunes qui sont dont le cerveau est encore en développement, en fait. Et puis, les réseaux sociaux, ils font vraiment en sorte d'agir sur notre dopamine, sur cette hormone du plaisir immédiat, comme ça, et qui peut vraiment créer une addiction assez forte, notamment chez des cerveaux qui sont encore en formation. C'est peut-être moins le cas chez les personnes des tranches d'âge un peu plus matures ou âgées qui, du coup, ont moins cette question-là. Après, on peut aussi utiliser les réseaux sociaux de façon positive. Il y a plein de messages positifs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi une façon de rester en lien avec certaines personnes, notamment pour peut-être des internationaux, des étudiants internationaux qui sont à l'étranger, etc. Donc, ça dépend vraiment de l'utilisation. Et je pense que c'est important de pas diaboliser les réseaux sociaux en disant c'est mal pour tout le monde. Et vraiment se rendre compte que ça dépend de l'utilisation et que du coup, éduquer les personnes en fait à utiliser les réseaux sociaux de façon qui soit protectrice et favorable à la santé mentale.
Vos propos font écho à ce que Sophia Pérez nous avait dit il y a quelques mois dans Genève, c'est vous, Sophia Pérez de Stop Suicide. On avait notamment évoqué une histoire qui est arrivée quelques jours avant d'enregistrer notre émission avec Sophia Pérez. C'était l'histoire de cette jeune lausannoise, je crois, de mémoire, qui avait lancé un appel au secours sur les réseaux sociaux disant qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Et c'était un élan de solidarité remarquable qui avait eu lieu, notamment sur X, pour localiser cette jeune femme et pour prévenir les secours qui avaient pu intervenir à temps et lui sauver la vie à ce moment-là. Voilà, c'est important aussi de le préciser. Effectivement, les réseaux sociaux, il y a du négatif, il y a du positif, mais c'est la manière dont on l'utilise finalement qui définit si c'est positif ou négatif. C'est important de le préciser toujours et d'éduquer justement nos jeunes, notamment à une bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux. Alors justement, qu'est-ce que ce serait une bonne manière d'utiliser les réseaux sociaux pour des jeunes voix?
Déjà, ça pour faire écho à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de se connaître soi-même, en fait, et d'arriver à identifier qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait pas du bien. Et d'arriver à se mettre les limites et puis de peut-être arrêter de suivre les comptes dont on remarque qu'ils nous font pas du bien, qui nous renvoient une image négative de nous-mêmes ou bien qui nous font passer des messages, qui nous provoquent des émotions désagréables. C'est de se dire, OK, ça peut-être je peux unfollow ce compte-là, faire des choix en fait stratégiques dans comment on construit les contacts qu'on a sur ces réseaux sociaux. Et ça demande voilà, bien se connaître et bien connaître ses limites et bien connaître aussi ses valeurs en fait, être aligné avec nos propres valeurs.
On parlait aussi pour les parents de pas forcément être dans l'interdiction complète des réseaux sociaux pour les enfants, mais d'être plutôt dans la communication. Parce que en 2024, je pense qu'on peut le dire, un adolescent, on pourra jamais l'empêcher d'aller sur un réseau social, quel qu'il soit, que ce soit Snapchat pour parler avec les amis, X, Instagram, bref, il y en a des dizaines en plus. Maintenant, on pourra jamais empêcher un ado d'aller sur un réseau social. Par contre, la clé passe peut-être, encore une fois, on y revient, par la communication entre les parents et les enfants, dire bon bah tu peux peut-être tomber sur des images qui peuvent être soit très choquantes, notamment en ce moment où les conflits se multiplient malheureusement aux quatre coins du monde, et également discuter, ça passe, on en revient toujours à ça finalement, la discussion, parler, que ce soit avec nous-mêmes ou avec nos proches ou nos enfants.
Ouais, tout à fait, parler en toute transparence, en toute honnêteté, ne pas avoir peur ou honte d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on voit et ce qu'on... Ouais, je pense que c'est vraiment fondamental et je pense que c'est un vrai challenge hein, pour les parents d'aujourd'hui avec des ados. Je pense que c'est vraiment pas du tout une évidence parce qu'il faut aussi se tenir au courant soi-même pour voilà, comprendre un petit peu la réalité du jeune ou de la jeune pour pouvoir ensuite lui en parler en connaissance de cause sans être complètement déconnecté de sa réalité. Mais oui, effectivement, en parler et puis garder vraiment ce canal de communication ouvert de sorte à ce qu'il y ait une confiance en fait entre les deux, entre le parent et l'enfant, et que l'enfant sache qu'il peut toujours venir parler aux parents en cas de besoin.
Il y a un peu plus d'une semaine, le 12 novembre dernier, un événement aussi en lien avec votre campagne qui cible essentiellement les hommes. Cette année, on rappelle le titre de cette campagne, Pleure comme un homme. Un petit événement le 12 novembre dernier où vous parliez notamment de paternité. Alors pourquoi ce choix de la paternité?
En fait, on s'est rendu compte que le passage à la paternité, c'est un moment charnière dans lequel souvent on se pose beaucoup de questions par rapport à quel modèle on veut être, quelles valeurs on souhaite transmettre à ses enfants, d'ailleurs que ce soit des filles ou des garçons. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut représenter, quelles normes ou quelles valeurs sont importantes d'intégrer dans l'éducation de nos enfants. Et puis, comment prendre soin de notre propre santé mentale, qui est souvent quand même largement chamboulée dans une période où on compare souvent un tsunami où tout d'un coup, nos rythmes de vie sont complètement chamboulés et qui demandent une attention particulière à la santé mentale. La vie familiale, la vie de couple, des moments, des lieux de vie comme ça vraiment cruciaux qui sont chamboulés.
Justement, est-ce qu'il y a des moments, alors on parle de paternité, mais est-ce qu'il y a d'autres moments dans une vie qui sont susceptibles, parfois, qui reviennent régulièrement en tout cas, et qui peuvent affecter fortement notre santé mentale? Est-ce qu'il y a peut-être des choses, des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que certains événements, peut-être plus que d'autres, affectent notre santé mentale?
Alors, il y a déjà un peu tout ce qui est transition importante dans la vie. Donc, effectivement, la transition à la parentalité pour les personnes qui deviennent parents, la transition à la retraite, la ménopause, mais aussi la transition dans l'âge adulte, dans le monde professionnel, dans le monde de l'emploi. Voilà, tous ces moments de transition. Et puis ensuite, il y a tous les événements négatifs qui peuvent nous arriver à un moment ou à l'autre de la vie, que ce soit dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte, si on traverse un deuil ou la perte d'un emploi, ou voilà, des choses qui peuvent être difficiles, mais aussi les choses positives qui peuvent faire du bien à notre santé mentale. Voilà, des événements de vie qu'on affronte ou qu'on rencontre dans notre vie.
Il y a quelque chose qui revient très régulièrement quand on veut sensibiliser à un sujet. On en parlait un petit peu tout à l'heure, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans les écoles, dans les universités genevoises pour parler santé mentale? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les choses vont dans le bon sens, peut-être pas assez vite, ça ne va jamais assez vite de toute façon comme on voudrait que ça aille en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses tout de même qui sont mises en place dans les écoles genevoises?
Alors, il y a un petit peu des sensibilisations à la santé mentale, comment en prendre soin. Nous, on est mobilisés dans certaines écoles secondaires et dans certaines HES, universités, pour parler de santé mentale. Donc, ça nous fait toujours plaisir de venir rencontrer les jeunes et puis les sensibiliser à comment prendre soin de leur santé mentale et celle des personnes qui les entourent. Après, il n'y a rien, je dirais, de vraiment systématique à l'heure actuelle à Genève. Et c'est vrai que je pense que ce serait bien d'avoir une sensibilisation à la santé mentale de la même façon qu'on a une sensibilisation à la santé sexuelle, par exemple.
Ouais, les choses qui se font finalement, c'est plutôt de l'initiative d'enseignants isolés, j'ai envie de dire, plutôt que d'écoles ou de structures en elles-mêmes ou du département de l'instruction publique. C'est pas, ça vient plutôt des enseignants directement plutôt que des institutions.
C'est ça, ouais.
Ce qui est problématique, ce qui doit changer pour que ça aille mieux de manière globale. Est-ce que vous avez vu une évolution, vous, ces dernières années, avec l'association Minds, justement, on parlait de cette prise de conscience. Est-ce que vous avez l'impression que là, ça y est, la machine est lancée, que ça va prendre du temps, mais qu'on va réussir à détruire, un petit peu comme on est en train de le faire aujourd'hui, finalement, au micro de Radio Cité Genève, tous les tabous qui entourent la santé mentale?
Alors j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour pouvoir vous dire dans le futur comment, à quoi ça va ressembler, mais oui, je pense qu'il y a, voilà, j'ai des indices quand même qui nous suggèrent que on en parle plus, que la santé mentale devient de moins en moins tabou et qu'il y a une volonté de sensibiliser les personnes autour de nous, que ce soit des initiatives individuelles d'enseignants, mais aussi de personnes dans différentes entreprises ou dans différentes organisations qui font de plus en plus attention à la santé mentale de leurs collaborateurs et des publics qu'ils côtoient. Donc oui, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui bouge et j'espère que ça va continuer dans cette direction-là parce qu'il y a encore du travail.
Merci beaucoup, Andrea Pereira, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre association Minds, dont vous êtes la directrice. Grâce à vous, au cours de ces 3 épisodes de Genève, c'est vous qui vous étiez consacré. Eh bien, on a pu briser les tabous autour de la santé mentale. On a pu en parler. Et surtout, c'est ce qui est le plus important. Il faut en parler, que ce soit avec des professionnels de la santé ou bien avec votre entourage. Il faut le dire. Il faut en parler. C'est normal, parfois, d'aller mal. C'est normal, parfois, de ne pas se sentir à sa place. Le tout, c'est de comprendre pourquoi et c'est d'avoir les ressources nécessaires ensuite pour pouvoir travailler là-dessus. Et ça, l'association Minds peut vous y aider. Notamment, c'est pas la seule à Genève, il y a énormément d'associations, énormément de numéros d'urgence que vous pouvez retrouver très facilement sur internet si vous avez besoin d'aide. Voilà, on espère en tout cas que ces 3 épisodes de Genève c'est vous consacrés à l'association Minds pourront aider, pourquoi pas, des auditeurs, en tout cas parler de la santé mentale, briser les tabous. C'est ce que veut faire l'association Minds, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ces 3 épisodes que vous pouvez retrouver en podcast bien évidemment sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn ou encore Facebook, et puis en podcast directement sur notre site, cette fois-ci radiocité.ch.